Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et je vous remercie de prendre part au grand titre du jour en ce mercredi 29 juin. Veuillez noter que les grands titres du jour concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Aujourd'hui, il est question de l'avènement des voitures autonomes qui est retardé, de la réaction du docteur Thomas sur le cristal meth, de l'intervention du ministre pour juger les médecins à euthanasier et de la place de la religion au Japon. Mais bien entendu, mesdames et messieurs, nous allons terminer par la bonne nouvelle du jour. Débutons par cet article qui est publié sur la plateforme de la presse et qui s'intitule « L'avènement des voitures autonomes retardées par des dilemmes éthiques ». Voici donc ce qu'on peut lire sur les pages de la presse. Des prototypes sont testés sur les routes depuis plusieurs années, dont notamment un modèle de Google, et l'adoption généralisée de telles voitures pourrait éliminer jusqu'à 90% des accidents de la circulation, selon les auteurs de ces travaux parus dans la revue américaine Science. C'est ce que nous apprenait la presse. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'on fait face à un dilemme moral ou un dilemme éthique, devrais-je dire. Parce que, advenant que le logiciel qui pilote la voiture fasse fausse route ou qu'il y a une situation imprévue, parce que le logiciel ou le robot ne peut pas tout prévoir les cas d'espèce, eh bien, advenant que la voiture doit entrer en collision, eh bien, doit-elle sacrifier le passager ou les piétons? Eh bien, dans 76% des cas, les gens interrogés pense qu'il est préférable de sacrifier le passager pour éviter un groupe de piétons. Mais en même temps, voici ce que nous dit la presse, ces enquêtes révèlent un manque d'enthousiasme parmi les mêmes sondés face à l'idée d'acheter des voitures autonomes programmées pour éviter les piétons au détriment des passagers. Et là, ça démontre une chose, mesdames et messieurs, c'est que ce sont nos valeurs qui dicte nos choix. Et à chaque choix, il y a une question de valeur. Et c'est pour ça que c'est important de s'entretenir, de discuter ensemble, parce que nos choix de valeur vont former notre culture et notre société. Et j'aimerais terminer par cette réflexion qui nous est proposée sur la plateforme de la presse. Mais avant que nous puissions programmer nos valeurs morales dans des machines, nous devons nous efforcer de les clarifier et de les rendre cohérentes, ce qui pourrait être l'heure de vérité pour la philosophie morale du 21e siècle, écrit Joshua Green, psychologue à l'Université de Harvard, dans un éditorial publié dans Science qui accompagne l'étude à laquelle il n'a pas participé. Eh bien, c'est clair, mesdames et messieurs, Joshua Green soulève un point primordial. On doit clarifier nos valeurs. Mais maintenant, qu'est-ce que va être la norme pour clarifier ces valeurs? Sur quoi on va s'appuyer? Et c'est pourquoi c'est important que les gens de foi et que les citoyens de bonne foi puissent s'exprimer pour qu'on puisse éclairer, pour que les choix puissent être faits de manière éclairée. Sur la plateforme du Journal de Montréal, on peut lire la réaction du docteur Régent Thomas sur le cristal meth. Et oui, il est effrayé devant l'utilisation importante du cristal meth parmi les patients qu'il peut côtoyer, parce que cette drogue, elle est fortement addictive et cause des dégâts incroyables. On va soulever dans cet article que les gens deviennent accros rapidement, peuvent perdre leur emploi, peuvent prendre des risques importants au détriment de leur santé. Mais ce qu'il va dire qui est frappant, c'est que c'est la pire chose qu'il a vue depuis longtemps. Et voici ce que nous rapporte le Journal de Montréal. Il va jusqu'à dire, en parlant du docteur Thomas, que c'est la pire chose que j'ai vue depuis longtemps. Il va même mentionner que le cristal meth va amener de nombreuses personnes à se suicider. Alors, il interpelle la santé publique à réagir rapidement en élaborant, entre autres, des campagnes de sensibilisation et des programmes spéciaux de désintoxication. Alors, je félicite le docteur Thomas d'intervenir sur le sujet parce que toute la question des drogues, ça devient préoccupant. Préoccupant parce que ça l'affecte la santé des gens et ça l'affecte toute une société. Encore une fois dans le monde de la santé, mais maintenant c'est sur la plateforme du Devoir, on voit que Gaëtan Barrette intervient pour mater les médecins du CHUM. Et oui, mesdames et messieurs, qu'est-ce que le CHUM? C'est le centre hospitalier de l'Université de Montréal. Voici ce que nous dit le Devoir. Le ministre Barrette s'est montré outré par les informations publiées mardi dans Le Devoir, révélant qu'une politique interne récemment adoptée par le CUSUM, ça c'est le Centre universitaire de santé de McGill, qui permet à l'unité des soins palliatifs de ne pas offrir l'aide à mourir aux patients hospitalisés qui en feraient la demande. Le ministre Barrette s'est montré outré par les informations publiées mardi dans Le Devoir, révélant qu'une politique interne récemment adoptée par le CUSUM permet à l'unité des soins palliatifs de ne pas offrir l'aide à mourir aux patients hospitalisés qui en feraient la demande. Le CUSUM, ici, c'est le Centre universitaire de santé de l'Université McGill. Pour respecter l'objection de conscience des médecins de cette unité et la tradition des soins palliatifs, le CUSUM transfère plutôt ses patients vers d'autres unités. Ce dernier, en parlant du docteur Barrette, le ministre Barrette, devrais-je dire, entend d'ailleurs avoir une conversation avec la direction du CUSUM. Tout comme au CUSUM, plusieurs médecins de l'unité de soins palliatifs du CHUM sont eux aussi farouchement opposés à l'aide à mourir. Lorsque questionné à savoir s'il n'y avait pas de problème en général, dû au fait que la grande majorité des spécialistes en soins palliatifs au Québec sont opposés à l'aide à mourir, un soin de fin de vie désormais garanti par la loi, le ministre a soutenu qu'il y avait un problème philosophique. Non, ce n'est pas normal qu'on oppose cette philosophie aux droits des patients, a soutenu ce dernier en entrevue. Écoutez, mesdames et messieurs, on touche un point vraiment important ici. Le ministre a soutenu qu'il y avait un problème philosophique. La question de l'aide médicale à mourir ou l'euthanasie ou le fait de tuer un patient qui demande la mort, eh bien, c'est une question philosophique. Et là, ici, le ministre Barrette, qui est lui-même médecin, qui est lui-même docteur, fait face à des objections de conscience. Maintenant, il va forcer des médecins à agir contre leur conscience, spécialement dans un enjeu qui touche le fait de donner la mort à quelqu'un. Y a-t-il une décision plus grave que ça? Là, on ne parle pas d'une objection de conscience, comme si je vous disais, j'ai payé l'autobus, puis il manquait 5 sous, puis le chauffeur m'a dit, OK, tu peux passer, puis là, tu te sens mal dans ta conscience parce que tu n'as pas payé le plein prix. Je ne suis pas en train de dire que c'est correct de ne pas payer le plein prix. Je suis en train de dire qu'entre 5 sous et une vie humaine, il y a un océan entre les deux. Mais écoutez, mesdames et messieurs, ça doit être terrible pour un médecin qui n'est pas à l'aise de voir à ce qu'une personne humaine se fasse donner la mort, qu'on lui impose d'entrer dans le processus. Spécialement s'ils consacrent leur service à aider les malades à ne pas souffrir ou à diminuer la douleur ou la souffrance. Voyez-vous, je le répète, mesdames et messieurs, on a ouvert une porte en mettant sur pied cette loi et là, on ne peut plus revenir en arrière. Tout ce qu'on peut faire, c'est avancer et de creuser de plus en plus vers l'immoralité. Dans un autre ordre d'idées, eh bien, sur la plateforme du Figaro, qu'est-ce qu'on peut lire? Eh bien, voici un article qui est intéressant. Au Japon, beaucoup de dieux, mais si peu de religions. Ce qu'on nous dit dans cet article, c'est essentiellement ceci. Les lieux religieux font tellement partie du paysage urbain au Japon qu'on passe en les remarquant à peine et en y entrant surtout très peu. Et donc, on pourrait résumer ce phénomène-là en une phrase. Il y a beaucoup d'offres, mais peu de demandes. Et vous savez quoi, mesdames et messieurs, moi, ce qui m'attriste le plus, c'est que per capita, au Japon, au sein d'un pays qui n'est pas très religieux, eh bien, il y a plus de chrétiens qui sont protestants évangéliques qu'au Québec. Il y a un peu plus d'un pour cent de chrétiens évangéliques au Japon, alors que nous, au Québec, chez les francophones, on est moins de 1%. Mais nous allons terminer par la bonne nouvelle du jour. Règles budgétaires pour l'année scolaire 2016-2017, le ministre Sébastien Proulx annonce plus de souplesse pour améliorer les services offerts aux élèves. Et c'est la plateforme de Newswire qui nous informe ceci. Le ministre de l'Éducation a présenté aujourd'hui les règles budgétaires pour l'année scolaire 2016-2017. Représentant la volonté du ministre d'offrir plus de latitude aux écoles, celle-ci prévoit notamment plus de 195 millions de dollars pour des mesures visant directement les écoles. Dans une approche basée sur la décentralisation des budgets vers les écoles, les règles budgétaires 2016-2017 prévoient des balises plus simples et plus souples qui permettront aux écoles de mettre en œuvre elles-mêmes des mesures de soutien à la réussite éducative, et ce, sans passer par les commissions scolaires. Ainsi, le nombre d'écoles visées par certaines mesures a été élargi et le choix des moyens d'intervention appartient dorénavant aux établissements d'enseignement. C'est un pas dans la bonne direction. C'est intéressant qu'il y ait de l'argent neuf qui s'en va directement aux écoles. Et j'espère que ce genre de nouvelles, on va en entendre plus souvent. Avant de vous quitter, mesdames et messieurs, laissez-moi vous rappeler que les liens reliés aux articles cités dans le cadre de cette émission sont accessibles sur Décentrer le discours et sur ma page Facebook via le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, bonne lecture, bonne réflexion et bons échanges avec les gens de votre entourage. Pour ma part, je vous dis à demain.